Bonjour.
Bonjour.
En Marc 12, 32, 33, nous lisons. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Dans un autre passage, 1 Pierre 1:22, « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ce matin, je voudrais vous parler de l'amour. Vous allez voir, je vais vous faire faire un petit circuit. Il y a un peu plus de 50 ans, au début des années 60, un slogan est né aux États-Unis. Est-ce que vous vous souvenez lequel ? Ce slogan, c'était « Faites l'amour, pas la guerre ». C'était un slogan anti-guerre qui a bien vite été détourné de son objectif primaire pour devenir la porte ouverte à bien des choses, en particulier dans les discours sur la révolution sexuelle. Où le slogan a été détourné pour une libération sans tabou et qui a été le début d'une triste dérive. Un humoriste avait repris le slogan en disant « Faites les deux, l'amour et la guerre, et pour cela, mariez-vous !» Un peu plus tard, le slogan était aussi repris par les manifestants sur les barricades de mai 68, parmi bien d'autres slogans. Tout au long de la Bible, nous trouvons le mot « aimer » 18 fois, « amour » 150 fois, « haine » 118 fois, « aimer » EZ conjugué 26 fois et « haine » au pluriel 18 fois. L'amour de Dieu est le centre du message tant de l'Évangile que de l'Ancien Testament. Cet amour est la pureté même de Dieu et il doit nous conduire dans notre vie quotidienne, minute après minute. Jésus nous a dit à plusieurs reprises ce que nous devions faire. Annie, est-ce que tu peux lire ce qui est en plus, s'il te plaît ?
Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dans Matthieu 5, 46, en effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant?
On retrouve des versets similaires dans Luc, mais aussi d'autres, Luc 6, 35.
Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dans Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et dans Jean 15, 12, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
Et avec le mot amour, Christ nous a laissé des paroles. Jean 15, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et encore, en Jean 15, 9, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Jean 15 dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15, 13, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et enfin, un petit dernier, Jean 17, 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. L'amour que Dieu nous demande est pur. Ce n'est malheureusement pas celui de notre slogan bien vite détourné de ses premières intentions, qui était avant tout la non-violence et le rejet de la guerre. Très vite, il est devenu dans les années 60 le slogan de la libération sexuelle, comme je vous l'ai dit, du relâchement des mœurs, le fameux « peace and love » que vous avez tous vu avec le signe, qui se portait en médaillon, que l'on imprimait sur les t-shirts et autres vêtements, qui symbolisait la liberté totale. À l'époque, ne connaissant pas Christ et étant plutôt dans les rangs des contestataires, je l'ai aussi porté. Je ne savais pas que je faisais le jeu de l'ennemi de Dieu, Satan, qui voulait faire croire aux hommes qu'ils n'avaient pas besoin ni de Dieu ni de maître, mais qu'en suivant cela, qui en suivant cela s'enchaînait à la perdition. Michel Lerdami a écrit cette pensée à propos de notre slogan, l'amour, pas la guerre. Annie, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît ?
L'amour ne fait point de mal au prochain. Romains 13, 10. Le père d'une jeune victime décédée suite à une fusillade aveugle, entre sanglots maîtrisés, déclare à la presse : pour sauver cette jeunesse meurtrière, il n'y a que l'amour. Le tireur est un très jeune garçon. Il est fort peu probable que ses propos rejoignent le slogan des années 68. Faites l'amour, pas la guerre. Les proverbes 10-12 déclarent bien « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Mais les proverbes ne disent pas « Faites l'amour », car la dérive de ce slogan est la permissivité. Aimer est devenu faire l'amour, même sans aimer, juste pour le plaisir charnel. Désormais, ce que l'on appelle la sacro-sainte liberté autorise tout. Elle embrume les pensées de tout un chacun, dénature l'esprit et engendre toutes les dérives que nous connaissons aujourd'hui. Abreuvée d'images et d'idées libertaires, notre jeunesse est particulièrement exposée. Un couple de people conseille à leur fille aînée, après la mort de leur fille cadette, profite à fond de la vie, fais tout ce que tu veux. Puis ils divorcent. Où est donc l'amour? Dans la religion chrétienne, le maître mot est amour. Celui qui a conduit Jésus sur la croix, car Dieu a tant aimé le monde. Mais que n'a pas fait la religion au nom de l'amour et du Christ? Les guerres de religion, la persécution et l'inquisition. Le verbe aimer et le mot amour apparaissent plus de 500 fois dans la Bible. Et savons-nous encore aimer publiquement? L'infidélité dans le couple est-elle uniquement sexuelle?
Dans notre langue de Molière, le verbe aimer est bien vaste, mais paradoxalement concerne les plus petites choses, comme les délicates attentions. Faire l'amour, c'est être attentif à chacun des souhaits réalisables de son conjoint comme de son prochain. Faire l'amour, c'est user de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénité, de fidélité, de douceur, de tempérance, Galates 5, 22, envers tous. Ce père orphelin d'un enfant a bien raison. Humainement, il n'y a que l'amour qui puisse inverser la tendance de ses crimes, tant ceux gratuits que les fanatiques. Tous ces meurtriers de plus en plus jeunes réalisent-ils que la vie n'est pas un jeu vidéo ? Les morts ne se relèvent pas ? Et ceux qui banalisent la mort et assouvissant la vengeance, qu'ont-ils vu, entendu dans leur enfance ? Que leur a-t-on inculqué ? Ne nous y trompons pas. Les Proverbes 22:6 nous enseignant « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais le contraire est tout aussi réel. Très souvent, l'enfant mal enseigné ou livré à lui-même reproduira les actes en copier-coller. À la crèche, en garderie, chez la nounou, à l'école, nos enfants ne sont plus sous notre total contrôle. Sachons leur donner la base nécessaire à leur saint épanouissement en Christ, afin que le monde ne leur fasse jamais confondre le bien et le mal. Ésaïe 5:20. Dispensons l'amour, pas l'inimifier. Chers frères et sœurs, notre société, notre civilisation, notre culture a entamé une descente vertigineuse. Veillons à toujours regarder à Christ. Ne nous laissons pas séduire par tous ces mouvements et autres pseudo-libertés qui n'ont qu'un but, nous enchaîner et nous séparer de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte, jour où le Seigneur, comme il l'avait promis à ses disciples, envoya le Saint-Esprit sur eux. Nous pouvons lire dans Actes 1, les versets 1 à 9. Florine, est-ce que je pourrais te demander de les lire, s'il te plaît ?
Ça commence par Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant. Après avoir souffert, il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, « Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à ses yeux.
Merci. En acte 2, nous avons le récit de l'accomplissement de la promesse. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, en ces jours à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacune les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et à la surprise, ils se disaient les uns les autres. Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue ? À chacun, dans notre langue maternelle. Partes, Médèses, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux !» Alors Pierre se présentant avec les onze et levant la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Chers frères et sœurs, cette promesse de Jésus est toujours d'actualité aujourd'hui.
Jean 14, 26 « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Acte 1, 8 « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. »
Le Saint-Esprit est en nous. Il nous guide. Encore faut-il nous laisser guider et non pas n'en faire qu'à notre tête, en pensant comme le monde voudrait tant que nous pensions, que nous sommes assez grands pour mener notre vie seuls, sans guide, sans garde-fou. Cette façon de penser, contrairement à ce que le monde voudrait nous faire croire, nous enchaîne et nous conduit dans le mur. En nous confiant cet esprit, nous nous mettons à l'abri. Lisons ces versets dans Galates 5, 16 à 18.
Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et aussi au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Au verset 25, il est dit, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Et enfin, en Galates 6, 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. »
Le premier fruit de l'Esprit est l'amour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Confions-nous à lui 24 heures sur 24, seconde après seconde. Ne nous laissons pas abuser par le monde qui voudrait nous faire croire que nous n'en avons pas besoin. En ce moment, les médias nous abreuvent de rétrospectives sur mai 68 et cette révolution à la française, qui nous a ouvert, paraît-il, le chemin vers une vraie prise de conscience de nos possibilités et ainsi envoyer paître tout ce qui nous embarrasse. Dans le même temps, il y a 50 ans, en 68, un homme a été assassiné le 4 avril 68 à Memphis. Pourquoi ? Parce que c'était un Afro-Américain militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté. Il était pasteur baptiste. C'était ? C'est vrai. Et j'ai trouvé que ça serait bien de pouvoir relire, pas tout le discours de Martin Luther King, parce que son œuvre est grande, mais une partie du célèbre discours « J'y fais un rêve ». C'était un discours d'amour, de pardon. Est-ce que tu te sens libre ou...
Je vous dis aujourd'hui, mes amis, que malgré les difficultés et les frustrations du moment, j'ai quand même fait un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. J'ai fait un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance. Nous tenons ces vérités comme allant de soi, que les hommes naissent égaux. J'ai fait un rêve qu'un jour, sur les collines de terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. J'ai fait un rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un désert étouffant d'injustice et d'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. J'ai fait un rêve que mes quatre enfants habiteront un jour une nation où ils seront jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai fait un rêve qu'un jour, l'État de l'Alabama, dont le gouverneur actuel parle d'interposition et de nullification, sera transformé en un endroit où des petits-enfants noirs pourront prendre la main des petits-enfants blancs et marcher ensemble comme frères et sœurs. J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai fait un rêve qu'un jour, chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelée, les endroits rugueux seront lissés, les endroits tortueux seront faits droits, et la gloire du Seigneur sera révélée, et tous les hommes la verront ensemble.
Tu peux retirer. Oui. Ceci est notre espoir. C'est avec cet espoir que je rentre au Sud. Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordances de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble, être emprisonnés ensemble, nous révolter pour la liberté ensemble, en sachant qu'un jour nous serons libres. Quand ce jour arrivera, tous les enfants de Dieu pourront chanter avec un sens nouveau cette chanson patriotique. Mon pays, c'est de toi, douce patrie de la liberté, c'est de toi que je chante. Terre où reposent mes aïeux, fierté des pèlerins de chaque montagne, que la liberté retentisse. Et si l'Amérique veut être une grande nation, ceci doit se faire. Alors que la liberté retentisse des grandes collines du New Hampshire, que la liberté retentisse des montagnes puissantes de l'État de New York, que la liberté retentisse des hautes Allegheny de Pennsylvanie, que la liberté retentisse des rocheuses enneigées du Colorado, que la liberté retentisse des beaux sommets de la Californie, mais pas que ça. Que la liberté retentisse des Stone Mountains à la Géorgie, que la liberté retentisse des Lockwood Mountains au Tennessee, que la liberté retentisse de chaque colline, de chaque taupinière du Mississippi, que la liberté retentisse. Quand nous la laisserons retentir de chaque village et de chaque lieu-dit, de chaque état, de chaque ville, Nous ferons approcher ce jour quand tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, juifs et gentils, catholiques et protestants, pourront se prendre par la main et chanter les paroles du vieux spiritual noir, enfin libre, enfin libre. Dieu Tout-Puissant, merci, nous sommes enfin libres. Martin Luther King était un apôtre de la paix qui aimait ses ennemis, ses oppresseurs, qui voulait que les habitants de la terre vivent en harmonie, sans haine, sans jalousie. Il voulait que l'amour de Dieu nous guide dans l'amour du prochain, quelles que soient les différences. S'il devait revenir aujourd'hui, que verrait-il ? Les habitants de la terre qui ont galvaudé pour la plupart le mot amour avec une perversité grandissante, ils verraient la guerre et l'intolérance se multiplier. Chers frères et sœurs, nous sommes des lumignons dans ce monde. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Confions la direction de notre vie à Jésus et au Saint-Esprit. Résistons au monde. Amen.